Vous avez entendu en introduction, ben oui, aujourd'hui, on apprenait que Philippe Dano remporte le trophée Jean Béliveau pour son implication sociale. Voyons comment s'est déroulé ce point de presse virtuel. Avec nous, il était là, Martin McGuire est avec nous. Salut Martin!
Bonsoir, Jérémy.
Martin, écoute, Philippe Dano a remporté le trophée Jean Béliveau et la conversation a tourné évidemment sur son contrat. Ça retient l'attention, là.
Ben, c'est clair. Mais d'abord et avant tout, parlons de cet honneur quand même important. C'est un trophée prestigieux, mon cher Jérémy, dans l'entourage du Canadien. On sait que Piqué Subban l'a déjà gagné, chez Weber l'a déjà gagné. Il y a plusieurs récipiendaires différents au cours des dernières années. On sait que le grand Jean, comme on se plaisait à l'appeler, est celui qui a en quelque sorte ouvert la voie à cette implication communautaire, à cette implication des joueurs du Canadien au sein de la communauté québécoise. M. Béliveau a été celui qui a initié les visites à Sainte-Justine et un peu plus tard aux Children, bien sûr, où ça s'est séparé en deux groupes. Il a fait beaucoup. Alors, c'est d'avoir son nom, ne serait-ce que l'espace de quelques heures ou quelques minutes, collé à celui de Jean Béliveau dans la même phrase, c'est toujours très valorisant. Philippe Dano est un jeune homme généreux, c'est un jeune homme facile d'accès. Moi, je l'ai vu souvent avec des jeunes qui demandent des autographes et tout ça, puis il le fait avec plaisir. C'est un jeune homme terre à terre et on sent qu'il n'y a pas de misère à être près du monde. Et lui et sa conjointe sont impliqués dans la Fondation Jasmin Roy et Sophie Desmarais. La Fondation Jasmin Roy, Sophie Desmarais, c'est une fondation, Jérémy, très importante qui aide les jeunes victimes d'intimidation, qui fait aussi de la prévention. Et c'est important parce que je pense qu'il se passe malheureusement pas une semaine sans que dans les médias, on n'entende pas parler, Jérémy, que ce soit dans une école ou peu importe le contexte, sur les médias sociaux où malheureusement un jeune garçon ou une jeune fille a été intimidé, on s'en est pris à elle, à lui, sur les médias sociaux. C'est très difficile à vivre. C'est difficile à vivre pour les enfants, pour les jeunes qui vivent ces situations-là. Et c'est difficile pour les parents. Alors, c'est un mouvement, c'est une fondation importante, surtout avec ce qu'on vit aujourd'hui. Philippe Dano nous explique un peu quelle est l'idée derrière ça et pourquoi lui et sa conjointe se sont investis. C'est principalement la raison pour laquelle on lui a remis le trophée Jean Béliveau.
Ben écoute, à la base, c'est ma femme et moi, on voulait avoir quelque chose peut-être de différent un peu. Mais on voulait se passer quelque chose de peut-être différent, quelque chose qui nous touche un peu plus. Puis l'intimidation nous parlait énormément de nos jours avec les réseaux sociaux. C'est vraiment intense. Puis c'est pas toujours facile pour les jeunes de comprendre ça non plus, ni les plus vieux. Donc nous autres, c'était vraiment quelque chose qui... Écoute, c'est pas une bataille qu'on a fini non plus là avec ça, les réseaux, puis dans les écoles et tout. Donc nous, ça nous touchait, ça nous tenait à cœur. Puis on essaie d'en faire le plus possible de notre côté là.
Il n'a pas seulement parlé de son contrat, parce qu'il a parlé, lui n'a pas été, en tout cas, lui n'a pas vécu de problème d'intimidation importante dans sa jeunesse, dans son enfance, mais tu sais, quand même, là, il a souligné que parfois, Jérémy, sur les médias sociaux, envers les joueurs du Canadien, que ce soit après une défaite ou peu importe, il y en a qui ne vont pas avec le dos de la cuillère, on le sait, là. Mm-hmm. Puis Philippe Dano a dit, c'est vrai que certaines personnes, malheureusement, là, écrasées dans leur sofa, ça a été ces mots-là, peuvent lancer des choses sur les médias sociaux et blesser des gens. Puis c'est sûr que les joueurs du Canadien, les athlètes professionnels, les personnalités publiques peuvent être, comment dirais-je, je dirais pas habitués parce qu'on s'habitue jamais, mais peuvent dire que ça peut faire partie d'être une personnalité publique ou d'être un joueur du Canadien, mais à quelque part, quand ça dépasse les bornes, Jérémy, je pense que ça ne doit pas être accepté par personne. Alors, c'en est donc pour le trophée Jean Béliveau, c'est pour la dernière saison. Et bien évidemment, Jérémy, il a été question de sa négociation de contrat avec le Canadien. En fait, des négociations, il n'y en a pas. La dernière fois que les deux parties se sont parlé, c'était en septembre. Et je t'en avais parlé de ça parce que la dernière conversation qu'ils ont eue, là, il avait été question de se reparler un petit peu plus tard parce qu'on voulait régler les cas de Gallagher et compagnie. Jeff Petrie avait été réglé avant. Il est arrivé ensuite Anderson, la transaction Domi, Toffoli, Edmundson, Jake Allen. Bref, il n'y a pas eu de temps pour Philippe Dano parce qu'à un moment donné, le directeur général a dit « Je m'en vais en vacances, puis on va être obligé de faire des sacrifices, puis je ne pourrai pas garder tout le monde. » Alors, on n'a pas posé la question à Philippe Dano. Est-ce qu'il est résigné, donc, à ce stade-ci, à jouer sa dernière année de contrat?
Ah, écoute, moi, là, je vis jour le jour là-dedans. J'ai fait l'erreur quand j'étais, il y a 2 ans, avant de signer mon contrat. Cette année-là était plus difficile, j'étais plus jeune, puis j'ai fait l'erreur de, tu sais, comme j'étais comme différent. Puis moi, j'ai pas l'intention de changer ma game, puis je sais qui je suis, puis je sais qui je suis en train de devenir aussi. Donc, je suis en plein contrôle de mes moyens, puis comme je te dis, la décision me revient pas en bout de ligne. Puis c'est sûr que je veux rester à Montréal, mais je comprends la business aussi, puis je suis sûr que le meilleur va arriver.
On a senti.
Je ne sais pas comment te l'interpréter, Martin. On pourrait commencer à jouer au détecteur de mensonges avec ça, puis on le fera pas. Mais
je pense que c'est
un gars qui connaît la business. Là, ce qu'il s'est dit, c'est attends, c'est comme ça que ça marche. OK.
Ben en fait aussi, c'est parce que quand il dit je sais ce que je suis et je sais ce que je suis en train de devenir et je suis en pleine possession de mes moyens, je pense que c'est quelqu'un qui avait raison d'ailleurs parce que sa carrière est en nette progression depuis qu'il est avec le Canadien. C'est pourtant un des très, très bons coups de Marc Bergevin depuis qu'il est à Montréal, Philippe Dano. Tu sais, quand tu penses là, que ça a coûté Dale Weiss, Thomas Fleischmann, puis tu te retrouves avec un choix de repêchage, puis tu te retrouves avec un gars comme Philippe Dano, qui quand même, sur la ligne de centre du Canadien, là, est un morceau extrêmement important. Il y a une certaine distance qui a été exprimée par Marc Bergevin via la négociation avec le clan de Philippe Dano. Est-ce que cette distance-là s'appelle de la négociation? Je ne sais trop. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on a senti un dégagement de la part du directeur général. C'est assez contraire à ce qu'on a entendu. Entre autres, il y a de ça 2 semaines, tout au plus, Jeff Molson, à notre antenne, à l'émission Prolongation que j'anime avec Danny, M. Molson mentionnait que Philippe Dano est un gars important de l'équipe et c'est aussi un gars qui est important pour les partisans et dans la communauté, la façon dont il s'implique. Je pense que le trophée d'aujourd'hui en est un bel exemple. Il y a Jeff Petrie et Brandon Gallagher qui, sans même avoir été questionnés sur Philippe Dano, avaient dit d'emblée que c'est quelqu'un que le Canadien doit garder à long terme pour les services qu'il rend à l'équipe. Encore là, ça peut être une stratégie de négociation, mais je pense que du côté du clan de Philippe Dano, ça a peut-être été perçu drôlement, tu sais, que cette espèce de dégagement que Marc Bergevin a exprimé.
Honnêtement, c'était malhabile. Selon moi, c'était malhabile.
Histoire de vacances.
Mais ça se voulait rigolo avec les autres en disant, non, regarde, je vais être en vacances. Puis mon téléphone est toujours ouvert. Ça demeure rigolo, mais quand c'est un joueur important, tu sais, je pense pas qu'il aurait dit ça à Brandon Gallagher.
Je pense pas qu'il l'aurait dit de Jeff Petrie. Alors, en même temps, Jérémy, quand il y a un dégagement comme ça, ce que ça envoie comme message, c'est que le joueur est pas tellement important à la suite des choses, mais quand on analyse et qu'on regarde ce que ce gars-là fait, tu sais, des matchs du Canadien, j'en manque pas beaucoup, là, puis des matchs de Philippe Dano, j'en ai pas manqué beaucoup. C'est un gars qui, depuis qu'il a atteint un certain niveau de jeu, là, est très important pour le Canadien. Je faisais l'image suivante pour le bénéfice de nos auditeurs qui n'étaient pas là cet après-midi, là. Je disais aux gens, fermez-vous les yeux, là, puis imaginez là, que en janvier, février, mars, là, le match est sur la ligne, 3e période. Le Canadien mène par un but, puis il y a une mise en jeu à la droite de Carey Price. Qui va la prendre, cette mise en jeu-là? Qui sera le gars qui sera désigné pour la prendre? Ce ne sera pas Jesperi Kotkaniemi. On pourrait certainement s'arranger avec Nick Suzuki, mais ce sera assurément Philippe Dano si l'entraîneur du Canadien a le dernier changement.
Je suis d'accord avec toi. On a vu, par contre, dans les séries que Suzuki a pris quelques mises en jeu importantes. Mais le point n'est pas là.
Mais c'est correct, ça. Puis je pense que le Canadien est en train de se monter une équipe qui va être, dont la force, Jérémy, va être la profondeur. On n'a plus seulement un trio, on en a deux, puis on en a trois. Tu sais, parce que je pense pas qu'on va démanteler le trio de Dano quand les activités recommenceront. Si c'est le 1er janvier, tant mieux. Pense que ces trois-là vont commencer ensemble. Mm-hmm. Je pense qu'avec Suzuki, Toffoli et Anderson, il risque d'y avoir là un trio très solide. Puis le troisième trio sera pas en reste parce que, tu sais, Drouin, puis Kotkaniemi et Armia vont être un des bons troisième trios. Alors, on verra bien, c'est pas nous autres qui coachent. Alors, quoi qu'il en soit, question intéressante qu'on a adressée à Philippe Dano, Jérémy. On lui a demandé s'il avait l'impression, après les nombreuses signatures, là, que c'est un peu à lui qu'on demandait de faire des sacrifices pour que ça puisse fonctionner.
Non, je pense pas qu'on me demande de faire sacrifice. Puis, j'ai fait un sacrifice le dernier contrat, donc je vais rester vraiment faire tout ça, mais je vais laisser ça à mes agents, puis à Marc, puis on va voir, comme j'ai dit. Il me reste un an de contrat avec le Canadien, puis j'ai l'intention de l'honorer jusqu'à la fin.
Contrat de 3 ans, 9 250 000 $ signé le 15 juillet 2018 avec le Canadien de Montréal. Là, on est dans une situation où on est en train de se pacter un club, et là, on a besoin que tout le monde respecte la case qu'on lui donne. Est-ce que les pensées de Philippe Dano sont plus grandes que la case que Marc Bergevin veut lui donner? C'est peut-être là le problème, là.
Non, la case. Tu parles de la case financière.
Exactement.
Ou tu parles de la case.
La case financière.
C'est clair que s'il n'y avait pas de discorde entre ce qui est demandé et ce qui est offert, le contrat serait déjà signé, Jérémy.
Clairement.
Le Canadien n'a plus beaucoup de marge de manœuvre sur sa masse salariale, mais puis il faut qu'il compte pour les prochaines années, Marc Bergevin, là. Mais quand même, là, tu sais, il y a de la place à régler avec Philippe Dano. Je répéterai, là, que un des comparatifs qui est fait dans le dossier de Philippe Dano, c'est assurément Jean-Gabriel Pageau, qui a obtenu un contrat de 6 ans pour la somme de 30 millions de $ avec les Islanders. Il y a des gens qui considèrent que ce contrat-là est un mauvais contrat. Pas que Jean-Gabriel Pageau est un mauvais joueur, comprenez-moi bien, là, mm-hmm. Mais que c'est un contrat qui était un peu élevé. Est-ce que Philippe Dano fait bien de se comparer à Jean-Gabriel Pageau? Il fait bien certain, parce que à partir du moment où un gars comme Pageau obtient un montant d'argent comme ça, c'est sûr que lui, Don Meehan, quand il présente des choses à Marc Bergevin, il n'est pas là pour discréditer son client. Au contraire, il est capable de comparer son client à Jean-Gabriel Pageau aisément. Alors, tu sais, je pense pas qu'il y a trois terrains de football entre le Canadien et le clan de Philippe Dano. Mais il faudrait juste que ces deux parties-là se rapprochent,
exact,
pour qu'il y ait une entente.
Mais Martin, tu sais que tout, oui, ça a commencé par des déclarations. Après la saison, tu as Philippe,
oui,
Dano qui a dit, tu sais, moi,
je vais te parler de ça aussi.
J'étais un gars de top 6, puis là, Marc Bergevin, je m'en vais. Tu sais, tout est une question de déclaration, point de vue journalistique, là. Parce qu'en fait, on ne sait pas comment ça se passe. Mais là, il n'y a rien à la table de négociation.
Non, il n'y en a pas de table.
Tout a commencé avec une déclaration de Philippe, là.
Ben, écoute, je ne sais pas si c'est ce qui a provoqué ensuite l'espèce de dérision que Marc Bergevin a utilisé un petit peu plus tard, mais quand c'est arrivé cette affaire-là, là, il faut rappeler que c'était un point de presse virtuel où on a demandé à Philippe Dano, est-ce que tu reconsidérerais t'associer à long terme avec le Canadien si on ne te confiait que des missions défensives à l'avenir, c'est-à-dire un rôle moins important que le rôle que tu joues actuellement? Ben, c'est sûr qu'un gars va dire oui, Jérémy. Tu sais, honnêtement, là, lui, il espère progresser et il sent qu'il est en train de progresser. Puis de toute façon, avant même qu'on en arrive là, il offrait déjà plus aux Canadiens. Mais quand même, Philippe Dano a tenu à revenir sur ses propos, a tenu donc à expliquer le fond de sa pensée. Puis vous allez voir, c'est assez clair.
Ce que j'avais dit, c'est pas que je voulais être premier centre puis de man comme tout le monde pouvait penser ou pouvait lire entre les lignes. C'était vraiment, moi, je me disais dans ma tête, le jour où je vais accepter que je vais avoir un rôle défensif, c'est le jour que je vais accepter d'arrêter de m'améliorer. Puis moi, je suis pas rendu là du tout dans ma carrière. Je veux m'améliorer chaque année. Puis je sais que je suis bon défensivement, mais je veux m'améliorer aussi offensivement. Puis je sais que je suis capable d'en donner encore plus.
C'est le propre d'un bon joueur de hockey, Martin.
Absolument. Est-ce qu'on peut ne pas être content de quelqu'un qui dit « Je vais en offrir plus à mon équipe, puis je pense que je peux le faire. » Puis tu sais, en même temps, là, toute cette histoire-là là, de Philippe Dano va être un joueur de centre numéro 3 avec le Canadien, là, c'est qu'à un moment donné, je rappellerai là, ceci. C'est que Philippe Dano, il joue pas en avantage numérique. Il joue en désavantage et il joue à 5 contre 5. Et là, à un moment donné, ça force un peu contre les Pingouins de Pittsburgh. Puis l'entraîneur des Pingouins, lui aussi, il veut gagner le match, là. Alors, il commence à se promener avec Malkin, avec Crosby. Puis c'est quand ça va mal, les Pingouins, là ils vont essayer d'endormir l'adversaire puis saupoudrer du Malkin puis du Crosby partout. Alors, qu'est-ce qu'a été la réaction de Claude Julien quand il a vu qu'avec Kotkaniemi puis avec Suzuki, on n'avait pas le meilleur match possible? Il a mis deux joueurs à caractère un peu plus défensif avec Philippe Danault, puis il a dit « je t'en avance, mes affaires vont bien dans la série ». Alors, je vais m'équiper d'un trio qui peut défendre adéquatement contre Malkin et contre Crosby. Alors là, à partir de ce moment-là, certaines personnes ont tiré d'un trait la conclusion que dorénavant, Philippe Danault est un joueur défensif. Mais je rappellerai quand même les faits, Jérémy, là, que ce changement-là a été fait parce que le coach a dit « si je trouve pas un moyen de me faire une ligne pour me défendre contre le monstre à deux têtes qu'est Crosby et Malkin, je vais me faire dévorer ». Puis écoute, il a bien fait parce que dans la série, Malkin a été tenu presque au silence. Crosby, pas tout à fait, mais quand même, je pense que Philippe Danault a fait un job assez colossal contre ces deux-là.
Écoute, Martin, il y a même par moment, Danault jouait sur deux trios. Fait que,
absolument.
L'idée est pas... Moi, je pense que c'est juste une question de longueur de contrat, une question de salaire. C'est là qu'on est présentement entre les deux parties. Est-ce que Philippe Danault a parlé de la compétition? Parce que là, tout le monde regarde Suzuki, regarde Keke, regarde Danault. Il y a de la compétition, là.
Il y a de la compétition, puis vous allez voir de quelle façon il en parle, puis vous allez voir, bon, d'abord, je pense que lui, là, il est très fier de pouvoir s'apercevoir que ces deux jeunes-là sont en pleine progression, puis je rappellerai quand même aux auditeurs, là, qu'on a pris le soin d'asseoir Nick Suzuki aux côtés de Philippe Danault, soit dit en passant. Et c'est pas Danault qui a fait ce choix-là. Ce sont les patrons de Philippe Danault qui ont fait ce choix-là. Et il y a une raison pour ça. Voici Philippe Danault sur l'émergence de Kotkaniemi et de Suzuki.
Quand tu as un top 9 là, de qualité, c'est vraiment, je pense, super important pour un coach. Puis Claude, je ne suis pas inquiète, il va faire la bonne job avec ça. Puis c'est de répartir tes minutes en bout de ligne de la bonne façon. Puis comme j'ai dit, je veux qu'on gagne ensemble. Puis je crois énormément à ces deux kids-là. Puis je suis convaincu aussi qu'on peut s'aider à gagner là, ensemble. Très bon potentiel aussi. Puis j'aime vraiment la game qu'ils jouent. Ils ont des bonnes attitudes. Moi, ça me ferait plaisir d'être le mentor des deux kids.
Ben voilà, ça c'est une bonne nouvelle d'entendre ça. On sent l'expérience et c'est une bonne chose. Mais évidemment, la suite des choses sera peut-être de retour à la table de négociation. Martin, peut-être une petite mise à jour sur les négociations présentement dans la Ligue nationale de hockey. Est-ce que tu as des détails là-dessus?
Silence radio.
Oh.
Silence radio actuellement. Écoute, il ne filtre pas beaucoup d'informations. Les deux parties échangent toujours au moment où on se parle. Et j'ai discuté avec quelqu'un qui est bien au fait des enjeux. Je vais identifier cette personne sans l'identifier en vous disant que c'est une personne qui est au fait des enjeux de la situation actuelle. Et cette personne-là me disait, il y a de ça quelques heures à peine, elle me disait, ils vont devoir s'entendre. Ils vont devoir s'entendre avant le week-end ou d'ici, bien sûr, la fin du week-end, parce que s'ils espèrent pouvoir tenir une saison, en ne partant pas le 1er janvier, ça va être difficile.
Donc, ce qu'on comprend, c'est que ça passe ou ça casse là.
Bien, en fait, c'est qu'il faut qu'ils tiennent et il faut qu'ils puissent en arriver à un consensus parce qu'on sait que il y a un pourcentage du salaire qui va être différé. Les joueurs ont leur idée sur comment on devrait différer le salaire. Les propriétaires ont leur idée sur le pourcentage, puis comment ça doit se faire. Puis le fameux escrow, la fiducie, donc, pour parler un bon français, pour que les gens nous comprennent bien, cette fameuse fiducie, elle devra être retouchée selon ce que les propriétaires disent. Et les joueurs aiment pas qu'on touche à ça parce que déjà, ça les énerve un petit peu. Alors, ça, là, Jérémy, à la fin de la journée, là, c'est leurs affaires à eux autres, puis ils ont la responsabilité de régler. Ils ont la responsabilité de régler pour la santé de l'industrie du hockey professionnel.
Je suis assez d'accord avec toi, Martin.
C'est aussi simple que ça.
Non, mais à un moment donné, il faut se rendre compte également dans quel contexte nous sommes présentement.
Voilà.
C'est un contexte où c'est extrêmement difficile. Et moi, puis je respecte tout le monde. Je respecte la partie patronale. Je respecte les joueurs. Mm-hmm. Mais quand tu déballes sur la place publique des millions de dollars à gauche et à droite, je trouve que ça paraît pas bien. Garder les négociations au silence et arriver avec une conclusion heureuse pour les partisans premiers, pour les joueurs et les propriétaires. Mais à un moment donné, ça fait, là.
Les joueurs veulent jouer. Ils sont en très grande majorité, comme on dit chez nous, « willing ». Ils veulent une entente. Et une majorité de propriétaires pensent et ont la certitude que la Ligue nationale doit jouer au même titre que les autres grands circuits professionnels qui sont tous en action. Le baseball est dans une saison morte, mais le baseball va revenir. La NFL est là. La NBA commencera bientôt. Mm-hmm. La MLS tient des séries. Ils ont tenu une saison dans les bulles et tout ça. Alors, tu sais, la Ligue nationale peut pas se permettre de sauter son tour. Elle doit trouver le moyen de s'entendre avec ses joueurs. Puis les joueurs ne veulent pas, Jérémy, laisser sur la table une autre saison complète parce que, oublie pas là, qu'il y a une génération de joueurs de hockey, ce qu'on appelle les vétérans de 2020, là, ils ont tous vécu ou à peu près les deux derniers conflits de travail dans la Ligue nationale. Ils ont tous des comptables qui ont été en mesure de leur dire comment ces conflits de travail-là leur ont coûté.
Alors, ah, clairement. Ben oui.
Puis s'ils s'en souviennent pas, là, ils ont des agents, puis ils ont des collègues qui ont pris leur retraite depuis déjà quelques années, qui ont jamais pu retoucher les sommes d'argent qui avaient été perdues dans ces conflits de travail. Là.
En terminant, Columbus et oui. Vegas aux prises avec des problèmes de COVID-19?
Écoute, il n'y en avait pas eu du tout dans les bulles de Toronto et d'Edmonton pendant toutes les séries. Et là, bien évidemment, tu sais, les joueurs sont un peu là dans leur propre agenda, alors parfois c'est difficile. À Columbus, on dit quelques cas, on précise pas le nombre. Faut dire que Pierre-Luc Dubois et quelques autres joueurs des Blue Jackets avaient décidé d'aller à Columbus après que les bulles eurent été fermées là, puis que les séries ont été finies pour les Jackets parce que c'était une possibilité pour eux de s'entraîner là-bas. Il y avait l'ouverture du centre d'entraînement de l'équipe, mais là, les cas ont été déclarés le 16 novembre. Ça fait déjà quand même un bout là. Alors on a fermé les facilités d'entraînement qui sont dans le même édifice dans lequel ils jouent, là, les Blue Jackets. C'est tout à la même place, comme on dit. Et on a fermé ça. Puis déjà, les joueurs sont en isolement depuis probablement aux alentours du 16 novembre. C'est donc dire que les joueurs qui se portent bien quand même, ce qu'on dit, là, qui ont la COVID chez les Blue Jackets, devraient, si tout va bien, être en mesure de participer à des camps d'entraînement s'il y a une entente là, qui commencerait à la mi-décembre. Alors, pour eux, le problème va être déjà derrière eux. Dans le cas des Golden Knights, ils ont été plus transparent là-dedans. Il y a quatre joueurs, sans nommer leur nom, là, il y a quatre joueurs qui seraient atteints de la COVID. Là, on a pris des mesures pour les quartiers des joueurs, les lounges, les vestiaires et tout ça. On a fermé ça. On a gardé l'accessibilité à l'aréna de pratique pour que les joueurs qui n'ont pas de problème de santé aillent patiner. Et bien sûr, ces joueurs-là sont testés avant de se rendre. Là. Puis s'il y a des symptômes, ils restent à la maison. Alors, la glace comme tel est probablement un endroit assez sécuritaire quand on pense au contrôle qu'ils font avant d'envoyer les joueurs sur la glace. Mais c'est pas une surprise, Jérémy, qu'on ait quelques cas. On sait que notre équipe canadienne junior des moins de 20 ans a deux cas également. C'est pas non plus là une surprise là, dans les circonstances. Alors, mais il n'y a aucun de ces cas-là qui inspire crainte au moment où on se parle.
Bien évidemment, on suivra la suite des choses. Martin McGuire, toujours un plaisir. Reste pas loin du téléphone si jamais une conclusion. Dans la Ligue nationale, on sera là en exclusivité.
Je pense que tu vas être correct pour ce soir avec tes auditeurs, mon cher Jérémy.
Bon, ben parfait. Je suis convaincu qu'on aura une bonne soirée de conversation. Merci, Martin.
Bonne émission.
Salut.
Au revoir.
Bye-bye.